Espace public sur Couleur FM, l'émission qui donne des couleurs à la politique. Retrouvez chaque semaine les candidats aux élections municipales 2014.
Espace public, nouvelle édition, nous arrivons à la Verpillière aujourd'hui, à la Verpillière, et nous commençons le tour des candidats aux élections municipales avec Nicolas Silanzic. Nicolas Silanzic, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu nous voir. Vous êtes candidat aux élections municipales des 23 et 30 mars prochains, et dans une situation, dans une configuration un peu particulière. Vous étiez auparavant membre de la majorité municipale et vous vous présentez aujourd'hui finalement contre l'ancien maire. C'est bien ça?
Oui, contre le maire sortant. Alors, puisqu'on démarre sur ce sujet-là, ce que je tiens à préciser, c'est que sur cette majorité sortante, 11 conseillers municipaux, dont 5 adjoints, ont fait le choix de me rejoindre pour l'équipe que j'ai constituée, Vivons la Verpillière. Et le maire se retrouve finalement isolé, étant donné que seulement 6 conseillers municipaux actuels ont fait le choix de le suivre dans son équipe aujourd'hui.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que la majorité sortante, c'est plutôt vous finalement?
Bon, on peut l'interpréter comme ça, d'autant plus que les 5 adjoints qui ont fait le choix de me rejoindre ont porté énormément de projets, énormément d'actions durant tout le mandat, qui ont peut-être manqué de soutien, d'appui pour leur donner le réel écho qu'ils auraient mérité.
Très bien. Ceci étant dit, on va revenir au format classique de l'émission et vous demander de vous présenter en quelques mots, une petite carte d'identité. Nicolas Silanzic, qui êtes-vous?
Alors, donc, je suis Nicolas Silanzic, j'ai 32 ans, je suis natif de la commune de la Verpillière, j'y ai toujours vécu, j'y ai grandi, j'y ai fait toute ma scolarité. Je l'ai quitté pendant quelques années quand même pour étudier. J'ai fait des études dans le supérieur à Grenoble et à Marseille. J'ai fait également un volontariat en Pologne, un volontariat européen, où je travaillais dans un centre d'accueil pour la jeunesse européenne. Donc on recevait des jeunes de l'Europe entière pour conduire des projets éducatifs, des projets culturels, des projets sportifs. Une expérience très enrichissante qui m'a un peu éloigné du Nord-Isère, mais que j'ai retrouvé avec beaucoup de joie et avec la décision de m'impliquer pour la vie de ma commune et pour défendre des projets qui contribueraient à l'intérêt général de la Verpillière.
Et votre engagement politique précisément?
Alors j'ai démarré la politique, je parle comme quelqu'un qui a fait 40 ans de politique, mais c'est pas du tout le cas. J'ai démarré en 2006 par des campagnes notamment présidentielles, législatives, pour accompagner les candidats au sein du Parti Socialiste, puisque je suis militant du Parti Socialiste. Et ensuite, dès 2008, je me suis engagé pour les municipales à la commune de la Verpillière. Je suis actuellement conseiller municipal et vice-président à la CAPI, où j'ai la charge des questions du numérique, de l'économie sociale et solidaire, sujet que vous connaissez bien à Couleur FM, et également de l'interterritorialité, c'est-à-dire notre relation avec les intercommunalités voisines.
Alors précisément, la première question, et de manière finalement presque rituelle maintenant, c'est de vous demander comment vous vous positionnez en tant que potentiel futur premier magistrat d'une commune. Dans cette complexité actuelle, c'est plus la même chose aujourd'hui d'être maire qu'avant, avec on est maire d'une commune, mais il y a l'intercommunalité, donc ici c'est la CAPI, et puis il y a la grande métropole qui arrive bientôt. Comment on appréhende ça?
Vous avez raison de poser cette question sur finalement la complexité de la gestion municipale aujourd'hui. Ce que j'ai pas précisé dans ma présentation, c'est que j'ai quand même un métier. Je suis chargé de développement économique et mon métier consiste à accompagner les chefs d'entreprise de France, d'Europe, du monde entier dans leur installation sur le département de l'Isère. Donc je suis au contact de chefs d'entreprise, de chercheurs, d'universitaires pour contribuer à l'innovation et à la création d'emplois sur notre département de l'Isère. Donc cette expérience professionnelle où j'ai été amené à conduire des dossiers relativement complexes, mixé avec une histoire politique qui m'a beaucoup apporté. Hein, 2008 jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 6-7 ans de politique, ce qui n'est pas anodin. Les deux combinés me permettent aujourd'hui d'aborder cette complexité avec beaucoup de sérénité. Alors la complexité, elle a lieu à... elle se manifeste par plusieurs phénomènes. La première, c'est la question financière. La complexité, dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est que les ressources publiques commencent à se tarir. Il est difficile aujourd'hui d'accentuer la pression fiscale sur les ménages, sur les entreprises. Et en même temps, les projets coûtent de plus en plus cher. Ça, c'est un premier élément de complexité. Le second élément, c'est aussi la multiplication des échelons administratifs, des échelons type collectivité locale. Alors, je ne tiendrai pas le discours de dire que le millefeuille, il y en a marre, il y en a trop, etc. Aujourd'hui, la complexité, elle peut être gérée parce qu'il y a tous ces interlocuteurs à tous les niveaux. Aujourd'hui, un habitant qui a une problématique sur des questions du quotidien d'état civil... C'est la mairie, c'est la commune qui doit y répondre. Un habitant qui a une problématique sur les transports, ce sera plutôt l'intercommunalité ou la région pour les réseaux ferroviaires. Une personne qui sera plutôt, prenons l'exemple d'une entreprise, son interlocuteur, ce sera plutôt la CAPI qui a la compétence du développement économique. Donc chaque problématique, chaque thématique a son niveau de collectivité pertinent. Après, à nous élus de savoir jongler dans cette complexité et de rendre cela le plus transparent possible pour les habitants, de ne pas les mêler à cette complexité.
Alors vous nous avez dit, vous êtes chargé de développement économique, vous êtes aussi en charge de l'économie sociale et solidaire, vous nous le disiez, à la CAPI. Ça nous permet de passer au volet économique finalement. Quelle proposition nouvelle peut-être, ou peut-être dans la continuité aussi, vous faites pour votre commune en termes économiques, sachant qu'on est dans une période où ça ne va pas bien nulle part?
Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est très préoccupant pour les habitants. Il y a plusieurs niveaux, là encore. Hein. Au niveau communal, le dynamisme, il vient des artisans, des commerçants, des quelques entreprises qui sont aussi installées sur le territoire de la commune. Moi, je crois qu'il y a déjà une priorité, c'est de pouvoir redynamiser ce tissu commercial et ce tissu d'artisans, de pouvoir leur donner tous les outils nécessaires pour se développer, trouver les bons interlocuteurs dans les problématiques du quotidien. Et puis, il y a un échelon aussi qui a plutôt très... à l'ensemble du Nord-Isère, à la CAPI, son attractivité, la manière dont elle sera capable d'exister sur des filières économiques stratégiques. Il y a deux beaux exemples qui sont celui de la construction durable. Aujourd'hui, dans toutes les communes, sur tous les territoires, la problématique de la construction pour comment construire des bâtiments performants, confortables, nécessite de plus en plus d'ingénierie. Tout ça, c'est de l'emploi, c'est des entreprises qui peuvent se créer. Et je crois qu'on a tout intérêt à jouer sur cette carte-là pour pouvoir stimuler la création d'entreprises sur notre territoire. C'est pas la commune toute seule qui va pouvoir jouer justement cette carte-là. C'est en travaillant avec les communes voisines, c'est en travaillant aussi avec le Grand Lyon qui a un rayonnement international qu'on va pouvoir attirer des nouvelles entreprises et créer de nouveaux emplois sur notre territoire. Et puis après, il y a une autre difficulté, c'est finalement comment ces nouveaux emplois peuvent être accessibles à nos populations. Bon, le taux de chômage sur la commune de la Verpillière n'est pas aux alentours de la moyenne nationale, mais sur tout le territoire du Nord-Isère, hein, la situation est un peu plus complexe, notamment au niveau des jeunes. Donc il faut pouvoir trouver les passerelles au niveau de la formation pour que ces jeunes qui recherchent un emploi, ou on parle beaucoup des jeunes, mais il y a aussi les personnes de plus de 50 ans qui sont sans emploi et qui ont besoin de trouver un nouveau travail, trouver les passerelles de formation pour permettre à ces gens de s'insérer sur le marché du travail.
les passerelles de formation, c'est-à-dire offrir à chaque habitant, peut-être non seulement de la commune de la Verpillière, mais de la CAPI, les possibilités de se former, de se professionnaliser.
Oui, en ouvrant pourquoi pas quelques filières de formation, alors très ciblées sur les thématiques pour lesquelles les entreprises ont des besoins, hein, ça doit se faire dans le dialogue avec les entreprises. Il n'est pas question de créer, comme ça a pu se faire par le passé, des antennes d'université, puisque le territoire n'a pas la masse critique pour pouvoir fournir les étudiants, mais des filières bien précises sur des petites sections de formation en partenariat avec les lycées, les CFA et tous les instituts de formation qui existent déjà sur le territoire, on peut arriver à créer de nouvelles filières de formation.
L'emploi, le chômage, c'est la précarité aussi, c'est de nombreuses personnes qui ont du mal à vivre au quotidien. Quelle politique sociale vous proposez ?
On pose la question finalement là des solidarités. Comment on peut activer toutes ces solidarités ? Et là, plus que jamais, la commune a son rôle à jouer. La commune, c'est l'échelon de la proximité. Le maire est bien identifié par les habitants. Ici, ce sera le centre social, là, ce sera la mission locale, là encore, ce sera le bureau d'information jeunesse. Sur la commune de la Verpillière, nous disposons d'un centre social qui doit évoluer. J'aime utiliser le concept de maison des habitants, c'est-à-dire un lieu ouvert à tous, qui est plutôt un lieu d'impulsion, un lieu d'orientation, un lieu de conseil, où les personnes, quelle que soit la problématique, que ce soit une problématique d'endettement, une problématique de recherche d'emploi, une problématique de gestion au quotidien d'un budget, puissent trouver la réponse adaptée et un parcours, un accompagnement tout au long des étapes qui vont lui permettre de retrouver une situation meilleure. Donc il y a des outils qu'il faut développer, le VERP emploi qui permet de mettre en relation les habitants de la commune avec le Pôle emploi, avec Sato emploi, toutes les instances qui existent tout autour et qui n'ont pas forcément le souci de la proximité et du dialogue avec les individus, il faut pouvoir le relancer. Toutes les initiatives citoyennes, beaucoup axées sur l'impulsion des citoyens, je pense au jardin collectif, à la ressourcerie, tout ce type de projets qui ont un vrai sens et qui permettent d'apporter des réponses à des problématiques du quotidien des habitants, il faut pouvoir les renforcer et c'est ce que je souhaite porter dans ce concept de maison des habitants.
Et comment appréhendez-vous alors la question du logement social à la Verpillière ?
Alors la question du logement, c'est pour le coup une compétence intercommunale, c'est la CAPI qui gère ces questions-là. Ceci étant, il faut les produire, tous ces logements. Le logement social est à tort stigmatisé. Chacun dans sa famille est concerné par une personne âgée, une personne à mobilité réduite, un jeune qui n'a pas un budget conséquent et qui a besoin d'un logement petit, adapté à ses besoins. Finalement, le logement doit pouvoir répondre à tous les besoins. Donc construire du logement social aujourd'hui, c'est finalement répondre à un besoin réel. Bon, il y a des lois qui existent, hein, qui cadrent le pourcentage de logements sociaux à produire. Nous, ce qu'on souhaite, c'est s'y conformer, mais surtout pouvoir insérer ce type de logement un peu partout, dans tous les quartiers, pour renforcer la mixité de logements, la mixité d'usages et de fonctions. Ça nous paraît prioritaire. Et puis ensuite, alors, il y a des solutions qu'on voit fleurir par-ci, par-là, hein, des résidences multigénérationnelles où on peut associer un jeune avec une personne âgée pour pouvoir se rendre des services mutuels. Tout ce type d'expérience d'habitat partagé aussi, hein, où plusieurs familles font le souhait de se réunir pour conduire ensemble un projet, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, qu'elle soit partagée, l'architecte, pour réduire les coûts. C'est aussi des initiatives qu'il faut savoir écouter et accompagner pour qu'elles puissent se réaliser.
Est-ce que sur tous ces sujets-là, vous vous sentez en rupture ou en continuité finalement avec la politique qui a eu lieu dans le dernier mandat ?
Sur ce sujet précis des solidarités et du logement, mon équipe et moi, on est clairement en rupture. L'objectif du maire actuel et de son adjoint en charge de l'urbanisme, c'est de réduire au maximum la part du logement social, de se conformer à la loi tout juste pour ne pas trop développer ce type d'offre de logement. La loi évolue, hein, on est à un niveau de 25% aujourd'hui. De toute façon, du logement social, on est contraint d'en produire, et il faut plutôt prendre cela comme un atout, bien le penser à l'avance pour ne pas le subir. Et c'est clairement dans cette posture que je me positionne. Et sur la question des solidarités, c'est un peu compliqué comme sujet, puisqu'on touche à des situations particulières, des habitants qui sont parfois dans la difficulté et qui tiennent à... Enfin, c'est normal, c'est nécessaire à garder une confidentialité. Mais on a le sentiment que les outils au niveau communal qui permettent aux gens de vivre un petit peu mieux ne sont pas toujours connus de tous et mis à la disposition de tous. Donc il faut pouvoir ouvrir tous ces dispositifs.
Nous arrivons à la mi-temps de cette émission. C'est toujours un exercice particulier dans cette émission. On vous a demandé de nous apporter vous-même la pause musicale. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez apporté ?
Alors c'est pas un exercice facile, hein, que vous m'avez demandé. J'écoute beaucoup de musique tout le temps, la radio, les CD, quelques vinyles de temps en temps aussi, glanés par-ci par-là. Là c'est 15h, c'est la pause café, on est bien installé. Donc j'ai choisi un morceau issu de la musique électronique, quelque chose de minimaliste, très sympathique à écouter. Donc ça s'appelle The XX et le titre de la chanson c'est Heart Skipped a Beat.
Eh bien on l'écoute.
C'était donc le choix musical de Nicolas Silanzic, The XX. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 et nous sommes dans l'émission Espace Public en compagnie de Thierry, l'émission qui donne des couleurs à la politique. Alors on continue avec Nicolas Silanzic. Autre aspect dans votre programme, la jeunesse. Alors qu'est-ce qui est prévu pour la jeunesse, pour l'éducation ? Je sais que vous avez un gros souci avec votre école. Alors dites-nous un petit peu ce qui va se passer à la Verpillière si vous êtes élu.
Dans le projet qu'on va proposer aux Vulpilliens dans les semaines qui suivent, qu'on va leur présenter au cours de plusieurs réunions, on a trois priorités. La première priorité, c'est les écoles et l'éducation, on va en parler un petit peu. La seconde, c'est tout ce qui a trait à la proximité, à la qualité de vie. Et le dernier, c'est la dernière priorité concerne le dynamisme citoyen, les associations, on en dira quelques mots aussi. Mais vraiment, l'école, c'est une priorité. La situation des écoles aujourd'hui, les conditions d'accueil des enfants sur la commune, notamment dans deux écoles, Jean Moulin et les Marronniers, sont catastrophiques. Donc il faut trouver une solution. Et ce qu'on propose, nous, c'est de construire un nouveau groupe scolaire pour regrouper ces deux écoles. Un groupe scolaire sur un site propre, une école moderne, adaptée aux besoins d'aujourd'hui, qui intègre les nouvelles technologies, qui soit adossée aussi à un restaurant scolaire, mais vraiment un nouvel équipement pour répondre au mieux aux conditions d'accueil des enfants. Et puis la seconde inquiétude dont m'ont fait part la plupart des parents d'élèves, c'est la question de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Là-dessus, je crois que, enfin, on s'est surtout attaché à dépassionner un peu le débat, et on se met vraiment dans une posture particulière à ce sujet. Pour nous, c'est vraiment une chance, cette réforme. On a le souhait de placer l'école au cœur de toutes les préoccupations, de mettre tout le monde autour de la table sur ce sujet-là, les associations, le corps enseignant, les parents d'élèves, la municipalité, les assistantes maternelles. Toutes ces personnes qui contribuent à l'éducation des enfants peuvent se retrouver autour d'un projet éducatif communal, et c'est ce à quoi on va s'attacher. Bon, alors après, les questions d'horaire, gratuité, etc., il est clair que pour nous, les temps d'accueil périscolaire seront gratuits. On ne va pas chambouler les horaires tels qu'ils ont été décidés par le maire actuel, puisque ça a aussi fait l'objet d'une discussion avec, parfois compliquée, mais ça a fait l'objet d'une discussion avec les parents d'élèves, donc ça ne bougera pas. Mais on va se donner le temps pour faire évoluer aussi ce qu'on va proposer au Vulpilien au niveau de la réforme des rythmes scolaires. Donc c'est vraiment une priorité, l'école.
Alors les jeunes, il y a quand même beaucoup de jeunes à la Verpillière, alors qu'est-ce qu'on fait pour eux?
C'est vrai que ça a été une thématique relativement oubliée ces dernières années. Il y avait par le passé sur la commune un point information jeunesse qui était très vivant, très actif. Alors peut-être ne pas remettre en place ce type d'outil, mais en tout cas écouter les jeunes, leur donner la chance de conduire des projets. Alors que ce soit des projets personnels ou collectifs, sur de la musique, des choses artistiques, de pouvoir donner un peu d'écho à leurs initiatives. Parfois, c'est tout simple, c'est le prêt d'une salle, c'est un peu d'assistance technique, prêt de matériel, c'est quelque chose qu'une municipalité est tout à fait apte à réaliser. Mais ça peut être aussi une ouverture sur le monde. Je crois qu'on a un vrai rôle à jouer à ce niveau-là. Mon expérience personnelle de volontariat européen m'a convaincu que c'est en sortant de notre, pour mon cas précis, Nord-Isère natale, qu'on va s'ouvrir l'esprit, découvrir de nouvelles choses, se forger une expérience. Donc encourager ces initiatives qui plus est citoyennes, c'est quelque chose qu'une municipalité est tout à fait aussi en mesure d'organiser. Donc ça, c'est vraiment deux aspects. Donner de l'écho aux initiatives des jeunes. Faut arrêter de penser que le jeune attend qu'on lui propose une programmation. Ils ont aussi plein d'idées. Il faut pouvoir les appuyer là-dedans. Et puis les aider à ouvrir leur esprit sur le monde.
Alors justement, on va directement aux associations, 50 associations à la Verpillière, est-ce que c'est pas aussi une solution pour les jeunes?
Oui, c'est à peu près une cinquantaine d'associations sur la commune, dans tous les secteurs, sur des associations sportives avec des gros clubs sportifs, mais aussi des associations culturelles, et puis aussi une école de musique qui a une vraie aura bien au-delà des frontières de la commune. Donc s'appuyer sur ces leviers, ça nous paraît essentiel. Là, les associations ont de plus en plus besoin de se professionnaliser, d'intégrer des éducateurs. Ça peut être aussi une chance pour des jeunes de pouvoir accéder à ces nouveaux postes. Donc on peut accentuer la relation entre les jeunes et le tissu associatif.
Alors côté culture, c'est toujours un petit peu compliqué sur le territoire de la CAPI, puisque la CAPI a une grosse part, que ce soit avec le Théâtre du Velin ou avec la SPAC, les abattoirs. À la Verpillière, vous avez également une petite salle où vous avez une petite programmation. Est-ce que vous allez la développer ou rester comme ça? Comment allez-vous faire?
Alors oui, il y a cette... Les deux niveaux doivent se croiser, doivent échanger pour pouvoir proposer un maximum de culture à tous les publics. aujourd'hui, l'intercommunalité joue tout son rôle avec deux équipements à rayonnement, on va dire, régional. Hein, le théâtre du Velin qui est pratiquement comble pour chaque représentation qui y sont proposées. La SMAC Les Abattoirs qui est plutôt destinée aux musiques actuelles et un public plus jeune. C'est deux équipements qu'il faut consolider. Mais les communes ont aussi leur rôle à jouer. Alors, pour la Verpillière, moi je fais attention parce que parfois on veut être un petit peu élitiste sur la culture, mais il y a quand même un public, je pense particulièrement aux personnes âgées, qui sont attachées au petit spectacle qui a lieu deux ou trois fois dans l'année. On s'y déplace facilement, c'est pas compliqué d'y aller, donc il faut maintenir ce type de programmation, du théâtre de boulevard, parfois quelque chose qui peut aussi ouvrir un peu plus à d'autres domaines. Donc ça, il faut le conserver, mais par contre, la commune peut aussi jouer un rôle auprès des troupes de théâtre local, des groupes de musique locaux, pardon, des groupes de musique, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, hein, mais qui cherchent parfois une scène pour pouvoir donner un spectacle. Surtout qu'en plus, en général, ces troupes ou ces groupes viennent avec leur public. Donc, on a souvent la chance de pouvoir faire salle comble en donnant aussi l'opportunité d'une première scène à une troupe ou un groupe de musique. Donc, on va mettre l'accent là-dessus. Et puis, on a un autre, au niveau culturel, un autre événement assez phare sur la commune qui s'appelle le Festifox, qui est un festival de musique pop qui a été créé sous l'impulsion d'une adjointe sortante qui a fait le choix de me rejoindre pour ses municipales. Donc ce festival, on va le maintenir, on va lui donner, alors peut-être le faire évoluer, hein, parce que tout n'est pas parfait, mais vraiment l'inscrire dans le paysage des festivals du Nord-Isère et de l'Est lyonnais, il a toute sa place à prendre. Donc on va y travailler, mais c'est un événement que je trouve très sympathique et qu'il faut renforcer.
Dernière question avant on va arriver à la fin de cette émission. On n'a pas parlé de sécurité à la Verpillière. Alors qu'en est-il ? Est-ce qu'on est en sécurité ? Est-ce qu'il y a de la vidéosurveillance ?
Alors tout à l'heure j'évoquais les priorités dans notre projet. La seconde priorité, c'est la qualité de vie. Et le premier garant de la qualité de vie, c'est bien entendu la tranquillité publique. On est bien dans sa commune quand on s'y sent en sécurité. Alors il existe une panoplie de moyens, hein, qui sont déjà en place. On bénéficie d'une gendarmerie sur la commune. J'ai pu m'entretenir longuement avec le commandant de la gendarmerie de la Verpillière. Il y a aussi le système de vidéosurveillance. Donc quand on parle de ça avec la gendarmerie, on nous dit écoutez, le nombre de caméras est suffisant. Il faut peut-être en déplacer certaines pour avoir une vidéosurveillance plus ciblée. Donc s'il faut le faire, que la gendarmerie le recommande, on le fera. Par contre, je pense qu'il n'est pas nécessaire de multiplier ce type d'équipements qui sont onéreux à partir du moment où le besoin n'est pas avéré. Alors par contre, il y a tout un travail qui est plus compliqué. C'est, alors on appelle cela une cellule de veille. C'est en fait les parties prenantes de la sécurité qui se retrouvent régulièrement. Donc autour de cette table, on va retrouver la justice, on va retrouver la gendarmerie, on va retrouver le monde socio-éducatif, les bailleurs, la municipalité. Donc ces gens se retrouvent régulièrement pour partager de l'information et anticiper au mieux les situations de délinquance, les situations conflictuelles. Et ça, je crois que c'est un élément précieux pour garantir la tranquillité publique. Et on le renforcera.
Alors, on arrive plus ou moins au terme de cette émission. Et vous nous avez fait l'honneur de venir avec deux livres. On vous en avait demandé un. Et alors, ça va être la petite partie littéraire de l'émission. Qui choisissez-vous entre Mario Vargas Llosa et Moyane?
Alors, deux prix Nobel, hein, le premier Mario Vargas Llosa en 2010 et Moyane en 2012, donc c'est des auteurs qui sont très agréables à lire. Je vais quand même privilégier aujourd'hui Moyane, alors pas forcément pour l'ouvrage que j'ai amené, La Mélopée de l'ail paradisiaque, mais plutôt pour toute son œuvre. C'est une plume qui est très intéressante. On n'a pas l'habitude de voir les auteurs chinois, de les lire, donc ça commence un petit peu à percer. On en voit dans les rayons lecture des magasins. C'est très intéressant. Et Moyane s'attache systématiquement à placer ses histoires dans un contexte historique, dans un contexte géographique de la Chine, les campagnes, pendant la fin du règne du régime communiste. Alors, il n'est pas achevé, mais dans les années dures du régime communiste, cette période aussi où on demandait aux familles de ne pas faire trop d'enfants, où le contrôle des naissances était fort. Donc c'est vraiment une manière de découvrir la Chine autrement que par ces mégalopoles, Pékin, etc. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet auteur.
Et à travers cette lecture, c'est aussi peut-être un trait qui permet de découvrir Nicolas Silanzic dans cet esprit d'ouverture au monde dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, certainement. C'est vrai que j'aime beaucoup ce type de romans qui nous permettent de découvrir un pays finalement par des gens qui y vivent, qui ont une lecture historique de leur pays de naissance. Et c'est pas un voyage, mais ça y ressemble au travers de ces lectures. C'est très intéressant.
Voilà, et bien pour nos auditeurs, s'ils veulent trouver ça, Moyan, la mélopée de l'ail paradisiaque, c'est dans la collection Point. Et pour Mario Vargas Llosa, on peut tout trouver en général chez Folio. Nicolas Silanzic, on vous remercie infiniment d'être passé nous voir.
Merci beaucoup pour cette initiative, c'est très intéressant.
Merci. Et puis c'était Nicolas Silanzic pour la liste Vivons la Verpillière. Merci à Thierry Borde pour son animation et à Sandrine pour la technique.